Chapitre 28. Il n'est de solitude qui ne soit partagée. Ce matin, on a enterré Victor Benjamin, 1937-2017. Le père Cédric n'était pas là. Victor Benjamin voulait un enterrement civil. Jacques Luccini a installé son matériel sono près de la tombe et chacun s'est recueilli autour de la chanson « Mon vieux » de Daniel Guichard. Dans son vieux par-dessus râpé, il s'en allait, l'hiver, l'été, dans le petit matin frileux, mon vieux. Pas de croix, ni de fleurs, ni de couronne à la demande de Victor. Juste quelques plaques funéraires déposées par ses amis et collègues, sa femme et ses enfants. Un des enfants de Victor tenait leur chien en laisse. Il a assisté à l'enterrement de son maître, s'est assis quand Daniel Guichard a chanté « Nous, on connaissait la chanson. Tout y passait, bourgeois, patron, la gauche, la droite, même le bon Dieu, avec mon vieux. » La famille est repartie à pied, suivie par le chien qui a eu l'air de plaire à Eliane. Elle les a suivis un peu, et puis elle est revenue se pelotonner dans son panier. Trop vieille pour les amours. Quand je suis rentrée chez moi, j'ai eu un gros coup de blues. Nono l'a senti. Il est allé acheter une baguette croustillante et des œufs de ferme, et on s'est fait une bonne omelette avec du comté que j'ai râpé. On a trouvé du jazz à la radio. Sur ma table, au milieu des publicités pour des marques de graines de salade et de cyprès à repiquer, des factures de plantes, des catalogues de chez Willem et Jardin, le facteur avait déposé une lettre. J'ai regardé le timbre avec le château d'If dessus. Elle avait été postée de Marseille. Violette traînait Toussaint, cimetière de Brancion-en-Chalon, 71, Saône-et-Loire. J'ai attendu que Nono soit parti pour l'ouvrir. Pas de « chère Violette » ni de « madame ». Julien seul commençait sa lettre sans formule de politesse. Le notaire a ouvert une lettre qui m'était destinée. Ma mère devait manquer de confiance en moi. Elle voulait que les choses soient officielles. Elle voulait que ce soit lui qui me lise ses dernières volontés pour que je ne puisse pas y déroger, j'imagine. Il n'y avait qu'une volonté, celle de reposer près de Gabriel Prudent dans votre cimetière. J'ai demandé au notaire de me répéter le nom de cet homme que je ne connaissais pas, Gabriel Prudent. Je lui ai dit qu'il devait faire erreur, que ma mère était mariée à mon père, Paul seul, enterré au cimetière Saint-Pierre à Marseille. Le notaire m'a dit qu'il n'y avait pas d'erreur, qu'il s'agissait bien des dernières volontés d'Irène Fayol, épouse seule, née le 27 avril 1941 à Marseille. Je suis montée dans ma voiture. Dans mon GPS, j'ai entré ces données, Brancion-en-Chalon, route du cimetière, parce que « cimetière » ne figurait pas dans la liste proposée. 397 kilomètres. Il fallait remonter la France, c'était tout droit. Pas de détour ni de déviation, de l'autoroute jusqu'à Mâcon. Sortir à la hauteur de Sensé et rouler 10 kilomètres dans des chemins de campagne. Qu'est-ce que ma mère était allée faire là-bas? Le reste de la journée, j'ai essayé de travailler, en vain. J'ai pris la route vers 21h. J'ai roulé pendant des heures. Je me suis arrêtée à hauteur de Lyon pour boire un café, faire le plein et taper Gabriel Prudent sur le navigateur de mon portable. La seule chose que j'ai trouvée était une définition de la prudence sur Wikipédia, fondée sur l'aversion au risque et au danger. Alors que je roulais vers cet homme mort et enterré, j'ai essayé de retrouver ma mère, les moments passés avec elle les dernières années, les quelques déjeuners du dimanche, un café de temps en temps, quand je passais dans son quartier, rue Paradis. Elle commentait l'actualité, ne me demandait jamais si j'étais heureux. Moi non plus, je ne lui demandais jamais si elle l'était. Elle me posait des questions d'ordre professionnel. Elle paraissait déçue par mes réponses. Elle attendait du sang et des histoires de crimes passionnels quand je ne lui offrais que des trafics de drogue, des crimes crapuleux et des vols à la tire. Avant de partir, en m'embrassant dans le couloir, elle me disait toujours, rapport à mon métier, fais quand même attention. J'ai cherché ce qu'elle avait pu me laisser entrevoir de sa vie privée. Rien. Je n'ai pas trouvé la moindre trace de cet homme dans mes souvenirs. Pas même une ombre. Je suis arrivée à Brancion en Chalon à 2 heures du matin. Je me suis garée devant le cimetière dont les grilles étaient fermées et je me suis endormie. J'ai fait des cauchemars. J'ai eu froid. J'ai redémarré le moteur pour me réchauffer. Je me suis rendormie. J'ai ouvert les yeux vers 7 heures. J'ai vu de la lumière à l'intérieur de votre maison. J'ai frappé à votre porte. Je ne m'attendais pas du tout à vous. En frappant à la porte d'un garde-cimetière, je m'attendais à découvrir un vieil homme rougeaud et bedonnant. Je sais, les idées reçues sont stupides. Mais qui aurait pu s'attendre à vous? À votre regard affûté, apeuré, doux et méfiant. Vous m'avez fait entrer et offert du café. Il faisait bon chez vous et ça sentait bon et vous sentiez bon. Vous portiez une robe de chambre grise, un truc de vieille dame, alors que vous dégagiez quelque chose touchant à la jeunesse. Je ne trouve pas les mots. Une certaine énergie, quelque chose que le temps n'avait pas abîmé. On aurait dit que vous étiez déguisée dans votre robe de chambre. Voilà, on aurait dit une enfant qui avait emprunté un vêtement à un adulte. Vos cheveux étaient ramenés en chignon. Je ne sais pas si c'est le choc que j'avais eu chez le notaire, la route de nuit, la fatigue qui perturbait ma vision, mais je vous ai trouvé incroyablement irréel. Un peu comme un fantôme, une apparition. En vous découvrant, j'ai senti que pour la première fois, ma mère partageait sa drôle de vie parallèle avec moi, qu'elle m'avait amenée là où elle demeurait vraiment. Et puis, vous avez sorti vos registres sur les enterrements. C'est à ce moment-là que j'ai compris que vous étiez singulière, qu'il existe des femmes qui ne ressemblent à aucune autre. Vous n'étiez pas la copie de quelqu'un, vous étiez quelqu'un. Le temps que vous vous prépariez, je suis retournée dans ma voiture, j'ai fait tourner le moteur, et j'ai fermé les yeux. Je n'ai pas pu dormir. Je vous ai revu derrière cette porte. Vous me l'avez ouverte pendant 1 heure, comme un extrait de film que je me suis repassé en boucle pour réentendre la musique de la scène que je venais de vivre. Quand je suis ressortie de ma voiture, que je vous ai vue dans votre long manteau bleu marine, m'attendant derrière la grille, j'ai pensé « Il faut que je sache d'où elle vient et ce qu'elle fait là. » Ensuite, vous m'avez amené jusqu'à la tombe de Gabriel Prudent. Vous vous teniez droite et votre profil était beau. À chacun de vos pas, je devinais le rouge sous votre manteau, comme si vous cachiez des secrets sous vos chaussures. Et j'ai pensé à nouveau, il faut que je sache d'où elle vient et ce qu'elle fait là. J'aurais dû être triste ce matin d'octobre, dans votre sinistre cimetière glacé, mais c'est tout le contraire que je ressentais. Devant la tombe de Gabriel Prudent, je me suis fait l'effet d'un homme qui tombe amoureux d'une invitée le jour de son mariage. Au cours de ma deuxième visite, je vous ai longtemps observé. Vous nettoyez les portraits des morts sur les tombes en leur parlant, et j'ai pensé pour la troisième fois, il faut que je sache d'où elle vient et ce qu'elle fait là. Je n'ai pas eu besoin de questionner Madame Bréant, la propriétaire de la chambre d'hôte, qui m'a dit que vous viviez seule, que votre mari avait disparu. J'ai cru que « disparu » signifiait « mort », et je vous avoue qu'alors j'ai ressenti de la joie, une joie obscure, à penser « elle est seule ». Quand Madame Briand a précisé que votre mari s'était volatilisé du jour au lendemain, il y a 20 ans, j'ai senti qu'il pourrait revenir. Que cet état d'irréalité dans lequel je vous avais trouvé derrière votre porte la première fois tenait peut-être à cela. À ces heures suspendues, à l'intérieur desquelles cette disparition vous avait enfermé entre une vie et une autre vie. Une salle d'attente où vous étiez assise depuis des années sans que jamais personne ne vienne vous appeler, ne prononce votre nom. Comme si Toussaint et Trenet se renvoyaient la balle. C'était sans doute cela, cette sensation de déguisement, votre jeunesse sous une robe de chambre grise. J'ai voulu savoir pour vous. J'ai voulu délivrer la princesse, jouer au héros de bande dessinée, enlever le manteau bleu marine pour vous voir dans votre robe rouge. Est-ce que j'ai cherché à savoir à travers vous ce que j'ignorais de ma propre mère, donc De ma propre existence? Sûrement. Je suis entrée dans votre vie privée par effraction pour soulager la mienne, et je vous en demande pardon. Pardon. En 24 heures, j'ai su ce que vous sembliez ignorer depuis 20 ans. Il n'a pas été difficile pour moi de me procurer une copie de la main courante que vous aviez déposée à la gendarmerie. J'ai lu dans les notes du brigadier qui vous avait reçu en 1998 que votre époux désertait régulièrement, qu'il n'était pas rare qu'il parte plusieurs jours, voire plusieurs semaines, sans vous informer du lieu où il résidait durant ces périodes d'absence. Aucune recherche n'avait été effectuée. Sa disparition n'avait pas été jugée inquiétante. Son profil psychologique et moral, ainsi que son état de santé, laissaient à penser qu'il était parti de son plein gré. J'ai découvert que cette disparition n'était qu'une légende, la vôtre et celle des habitants de Brancion. Une personne majeure est libre de ne plus rentrer en contact avec ses proches, et si son adresse est retrouvée, elle ne sera communiquée qu'avec son consentement. Je n'ai pas le droit de vous donner les coordonnées de Philippe Toussaint, mais je le prends. C'est vous-même qui m'avez dit « S'il fallait qu'on ne fasse que ce qui fait partie de nos attributions, la vie serait triste. » Faites de cette adresse ce que vous voudrez. Je l'ai écrite et glissée dans cette enveloppe jointe. Ouvrez-la, si vous le souhaitez. Votre dévoué, Julien Sall. C'est la première lettre d'amour que je reçois de toute ma vie. Une étrange lettre d'amour, mais une lettre d'amour quand même. Il n'a écrit que quelques lignes pour rendre hommage à sa mère. Des mots qu'il semble avoir eu un mal de chien à sortir. Et il m'envoie des pages. Il est définitivement plus facile de déballer son sac devant un parfait inconnu que dans une réunion de famille. J'observe l'enveloppe jointe et cachetée qui contient l'adresse de Philippe Toussaint. Je la glisse entre les pages d'un rose magazine. Je ne sais pas encore ce que je vais en faire. La garder dans l'enveloppe fermée, la jeter ou l'ouvrir. Philippe Toussaint vit à 100 km de mon cimetière. Je n'arrive pas à y croire. Je l'imaginais à l'étranger, au bout du monde. Un monde qui n'est plus le mien depuis très longtemps.